Antuello, livre 1, chapitre 29. L'histoire incroyable, en effet, qu'elle venait d'entendre, tint Consuelo assez longtemps éveillé. La nuit sombre, pluvieuse et pleine de gémissements, contribuait aussi à l'agiter de sentiments superstitieux qu'elle ne connaissait pas encore. « Il y a donc une fatalité incompréhensible, se disait-elle, qui pèse sur certains êtres. Qu'avait fait à Dieu cette jeune fille qui me parlait tout à l'heure, avec tant d'abandon, de son naïf amour-propre blessé et de ses beaux rêves déçus? Et qu'avais-je fait de mal moi-même pour que mon seul amour fût si horriblement froissé et brisé dans mon cœur? Mais hélas, quelle faute a donc commise ce farouche Albert de Rudolfstadt pour perdre ainsi la conscience et la direction de sa propre vie? Quelle horreur la Providence a-t-elle conçue pour Anzoletto de l'abandonner ainsi qu'elle l'a fait aux mauvais penchants et aux perverses tentations? Vaincue enfin par la fatigue, elle s'endormit et se perdit dans une suite de rêves sans rapport et sans issue. Deux ou trois fois, elle s'éveilla et se rendormit sans pouvoir se rendre compte du lieu où elle était, se croyant toujours en voyage. Le Porpora, Anzoletto, le comte Giustiniani et la Corilla passaient tour à tour devant ses yeux, lui disant des choses étranges et douloureuses, lui reprochant je ne sais quel crime dont elle portait la peine sans pouvoir se souvenir de l'avoir commis. Mais toutes ces visions s'effaçaient devant celle du comte Albert, qui repassait toujours devant elle avec sa barbe noire, son œil fixe et son vêtement de deuil rehaussé d'or, par moments semé de larmes comme un drap mortuaire. Elle trouva, en s'éveillant tout à fait, Amélie déjà parée avec élégance, fraîche et souriante à côté de son lit. « Savez-vous, ma chère Porporina, lui dit la jeune baronne en lui donnant un baiser au front, que vous avez en vous quelque chose d'étrange. Je suis destinée à vivre avec des êtres extraordinaires, car certainement vous en êtes un vous aussi. Il y a un quart d'heure que je vous regarde dormir, pour voir au grand jour si vous êtes plus belle que moi. Je vous confesse que cela me donne quelques soucis, et que malgré l'abjuration complète et empressée que j'ai faite de mon amour pour Albert, je serais un peu piquée de le voir vous regarder avec intérêt. Que voulez-vous? C'est le seul homme qui soit ici, et jusqu'ici j'y étais la seule femme. Maintenant nous sommes deux, et nous aurons maille à partir si vous m'effacez trop. Vous aimez à railler, répondit Consuelo. Ce n'est pas généreux de votre part, mais voulez-vous bien laisser le chapitre des méchancetés et me dire ce que j'ai d'extraordinaire? C'est peut-être ma laideur qui est tout à fait revenue. Il me semble qu'en effet cela doit être. Je vous dirai la vérité, Nina. Au premier coup d'œil que j'ai jeté sur vous ce matin, votre pâleur, vos grands yeux à demi-clos et plutôt fixes qu'endormis, votre bras maigre hors du lit m'ont donné un moment de triomphe. Et puis, en vous regardant toujours, j'ai été comme effrayée de votre immobilité et de votre attitude vraiment royale. Votre bras est celui d'une reine, je le soutiens, et votre calme a quelque chose de dominateur et d'écrasant dont je ne peux pas me rendre compte. Voilà que je me prends à vous trouver horriblement belle, et cependant il y a de la douceur dans votre regard. Dites-moi donc quelle personne vous êtes. Vous m'attirez et vous m'intimidez. Je suis toute honteuse des folies que je vous ai racontées de moi cette nuit. Vous ne m'avez encore rien dit de vous, et cependant vous savez à peu près tous mes défauts. « Si j'ai l'air d'une reine, ce dont je ne me serais guère douté, répondit Consuelo avec un triste sourire, ce doit être l'air piteux d'une reine détrônée. Quant à ma beauté, elle m'a toujours paru très contestable. Et quant à l'opinion que j'ai de vous, chère baronne Amélie, elle est tout en faveur de votre franchise et de votre bonté. Pour franche, je le suis. Mais vous, Nina, l'êtes-vous? Oui, vous avez un air de grandeur et de loyauté. Mais êtes-vous expansive? Je ne le crois pas.
Ce n'est pas à moi de l'être la première, convenez-en. C'est à vous, protectrice et maîtresse de ma destinée en ce moment, de me faire les avances.
Vous avez raison, mais votre grand sens me fait peur. Si je vous parais écervelée, vous ne me prêcherez pas trop, n'est-ce pas?
Je n'en ai le droit en aucune façon. Je suis votre maîtresse de musique, et rien de plus. D'ailleurs, une pauvre fille du peuple comme moi saura toujours se tenir à sa place.
Vous? Une fille du peuple, fière Pourpourine?
Oh, vous mentez, cela est impossible. Je vous croirais plutôt un enfant mystérieux de quelque famille de princes. Que faisait votre mère?
Elle chantait, comme moi.
Et votre père?
Consuelo resta interdite. Elle n'avait pas préparé toutes ses réponses aux questions familièrement indiscrètes de la petite baronne. La vérité est qu'elle n'avait jamais entendu parler de son père et qu'elle n'avait jamais songé à demander si elle en avait un.
« Allons !» dit Amélie en éclatant de rire. « C'est cela, j'en étais sûre. Votre père est quelque grand d'Espagne ou quelque doge de Venise. »
Ses façons de parler parurent légères et blessantes à Consuelo.
« Ainsi, dit-elle avec un peu de mécontentement, un honnête ouvrier ou un pauvre artiste n'aurait pas eu le droit de transmettre à son enfant quelques distinctions naturelles. Il faut absolument que les enfants du peuple soient grossiers et difformes. »
Ce dernier mot est une épigramme pour ma tante Wenceslawa, répliqua la baronne riant plus fort.
« Allons, chère Nina, pardonnez-moi si je vous fâche un peu, et laissez-moi bâtir dans ma cervelle un plus beau roman sur vous. Mais faites vite votre toilette, mon enfant, car la cloche va sonner, et ma tante ferait mourir de faim toute la famille plutôt que de laisser servir le déjeuner sans vous. Je vais vous aider à ouvrir vos caisses. Donnez-moi les clés. Je suis sûre que vous apportez de Venise les plus jolies toilettes et que vous allez me mettre au courant des modes, moi qui vis dans ce pays de sauvages, et depuis si longtemps. »
Consuelo, se hâtant d'arranger ses cheveux, lui donna les clés sans l'entendre, et Amélie s'empressa d'ouvrir une caisse qu'elle s'imaginait remplie de chiffons. Mais, à sa grande surprise, elle n'y trouva qu'un amas de vieilles musiques, de cahiers imprimés, effacés par un long usage, et de manuscrits en apparence indéchiffrables.
Ah, qu'est-ce que tout cela ? S'écria-t-elle en essuyant ses jolis doigts bien vite. Vous avez là, ma chère enfant, une singulière garde-robe.
Ce sont des trésors. Traitez-les avec respect, ma chère baronne, répondit Consuelo. Il y a des autographes des plus grands maîtres, et j'aimerais mieux perdre ma voix que de ne pas les remettre au Porpora qui me les a confiés.
Amélie ouvrit une seconde caisse et la trouva pleine de papiers réglés, de traités sur la musique et d'autres livres sur la composition, l'harmonie et le contrepoint.
« Ah, je comprends, » dit-elle en riant. « Ceci est votre écrin. »
« Je n'en ai pas d'autre, » répondit Consuelo, « et j'espère que vous voudrez bien vous en servir souvent. »
« À la bonne heure, je vois que vous êtes une maîtresse sévère. » Mais peut-on vous demander, sans vous offenser, ma chère Nina, où vous avez mis vos robes?
Là-bas, dans ce petit carton, répondit Consuelo en allant le chercher et en montrant à la baronne une petite robe de soie noire qui y était soigneusement et fraîchement pliée.
Est-ce là tout? Dit Amélie.
C'est là tout, dit Consuelo, avec ma robe de voyage. Dans quelques jours d'ici, je me ferai une seconde robe noire, toute pareille à l'autre, pour changer.
Ah, ma chère enfant, vous êtes donc en deuil?
Peut-être, signora, répondit gravement Consuelo.
En ce cas, pardonnez-moi, j'aurais dû comprendre à vos manières que vous aviez quelque chagrin dans le cœur, et je vous aime autant ainsi. Nous sympathiserons encore plus vite, car moi aussi j'ai bien des sujets de tristesse. Et je pourrais déjà porter le deuil de l'époux qu'on m'avait destiné. Ah, ma chère Nina, ne vous effarouchez pas de ma gaieté. C'est souvent un effort pour cacher des peines profondes. Elles s'embrassèrent et descendirent au salon où on les attendait. Consuelo vit dès le premier coup d'œil que sa modeste robe noire et son fichu blanc fermé jusqu'au menton par une épingle de jais donnaient d'elle à la chanoinesse une opinion très favorable. Le vieux Christian fut un peu moins embarrassé et tout aussi affable envers elle que la veille. Le baron Frédéric, qui par courtoisie s'était abstenu d'aller à la chasse ce jour-là, ne sut pas trouver un mot à lui dire, quoiqu'il eût préparé mille gracieusetés pour les soins qu'elle venait rendre à sa fille. Mais il s'assit à table à côté d'elle et s'empressa de la servir, avec une importunité si naïve et si minutieuse qu'il n'eut pas le temps de satisfaire son propre appétit. Le chapelain lui demanda dans quel ordre le patriarche faisait la procession à Venise, et l'interrogea sur le luxe et les ornements des églises. Il vit à ses réponses qu'elle les avait beaucoup fréquentées. Et quand il sut qu'elle avait appris à chanter au service divin, il eut pour elle une grande considération. Quant au comte Albert, Consuelo avait à peine osé lever les yeux sur lui, précisément parce qu'il était le seul qui lui inspirât un vif sentiment de curiosité. Elle ne savait pas quel accueil il lui avait fait. Seulement, elle l'avait regardé dans une glace en traversant le salon, et l'avait vu habillé avec une sorte de recherche, quoique toujours en noir. C'était bien la tournure d'un grand seigneur, mais sa barbe et ses cheveux dénoués, avec son teint sombre et jaunâtre, lui donnaient la tête pensive et négligée d'un beau pêcheur de l'Adriatique, sur les épaules d'un noble personnage. Cependant, la sonorité de sa voix, qui flattait les oreilles musicales du Consuelo, enhardit peu à peu cette dernière à le regarder. Elle fut surprise de lui trouver l'air et les manières d'un homme très sensé. Il parlait peu, mais judicieusement. Et lorsqu'elle se leva de table, il lui offrit la main, sans la regarder, il est vrai, il ne lui avait pas fait cet honneur depuis la veille, mais avec beaucoup d'aisance et de politesse. Elle trembla de tous ses membres en mettant sa main dans celle de ce héros fantastique des récits et des rêves de la nuit précédente. Elle s'attendait à la trouver froide comme celle d'un cadavre, mais elle était douce et tiède comme la main d'un homme soigneux et bien portant. À vrai dire, Consuelo ne put guère constater ce fait. Son émotion intérieure lui donnait une sorte de vertige. Et le regard d'Amélie, qui suivait tous ses mouvements, eût achevé de la déconcerter si elle ne se fût armée de toute la force dont elle sentait avoir besoin pour conserver sa dignité vis-à-vis de cette malicieuse jeune fille. Elle rendit au comte Albert le profond salut qu'il lui fit en la conduisant auprès d'un siège, et pas un mot, pas un regard ne fut échangé entre eux. « Savez-vous, perfide Porporina ?» dit Amélie à sa compagne en s'asseyant tout près d'elle pour chuchoter librement à son oreille. « Que vous faites merveille sur mon cousin ?»
« Je ne m'en aperçois pas beaucoup jusqu'ici, » répondit Consuelo.
« C'est que vous ne daignez pas vous apercevoir de ses manières avec moi. Depuis un an, il ne m'a pas offert une seule fois la main pour passer à table ou pour en sortir, et voilà qu'il s'exécute avec vous de la meilleure grâce. Il est vrai qu'il est dans un de ses moments les plus lucides. On dirait que vous lui avez apporté la raison et la santé. Mais ne vous fiez point aux apparences, Nina. » « Ce sera avec vous comme avec moi. Après 3 jours de cordialité, il ne se souviendra pas seulement de votre existence. »«
Je vois, » dit Consuelo, « qu'il faut que je m'habitue à la plaisanterie. »«
N'est-il pas vrai, ma petite tante ?» dit à voix basse Amélie en s'adressant à la chanoinesse, qui était venue s'asseoir auprès d'elle et de Consuelo. « Que mon cousin est tout à fait charmant pour la chère Porporina ?»
« Ne vous moquez pas de lui, Amélie, » répondit Wenceslao avec douceur. « Mademoiselle s'apercevra assez tôt de la cause de nos chagrins. »«
Je ne me moque pas, bonne tante. Albert est tout à fait bien ce matin, et je me réjouis de le voir comme je ne l'ai pas encore vu peut-être depuis que je suis ici.
S'il était rasé et poudré comme tout le monde, on pourrait croire aujourd'hui qu'il n'a jamais été malade.
Cet air de calme et de santé me frappe en effet bien agréablement, dit la chanoinesse, mais je n'ose plus me flatter de voir durer un si heureux état de choses.
Comme il a l'air noble et bon, dit Consuelo, voulant gagner le cœur de la chanoinesse par l'endroit le plus sensible.
Vous trouvez ? Dit Amélie, la transperçant de son regard espiègle et moqueur.
Oui, je le trouve, dit Consuelo avec fermeté.
Et je vous l'ai dit hier soir, signora, jamais visage humain ne m'a inspiré plus de respect.
Ah, chère fille, dit la chanoinesse en quittant tout à coup son air guindé pour serrer avec émotion la main de Consuelo.
Les bons cœurs se devinent. Je craignais que mon pauvre enfant ne vous fît peur. C'est une si grande peine pour moi que de lire sur le visage des autres l'éloignement qu'inspire toujours de pareilles souffrances. Mais vous avez de la sensibilité, je le vois, et vous avez compris tout de suite qu'il y a dans ce corps malade et flétri une âme sublime, bien digne d'un meilleur sort.
Consuelo fut touchée jusqu'aux larmes des paroles de l'excellente chanoinesse, et elle lui baisa la main avec effusion. Elle sentait déjà plus de confiance et de sympathie dans son cœur pour cette vieille bossue que pour la brillante et frivole Amélie. Elles furent interrompues par le baron Frédéric, lequel, comptant sur son courage plus que sur ses moyens, s'approchait avec l'intention de demander une grâce à la signora Porporina. Encore plus gauche auprès des dames que ne l'était son frère aîné, cette gaucherie était, à ce qu'il paraît, une maladie de famille qu'on ne devait pas s'étonner beaucoup de retrouver développée jusqu'à la sauvagerie chez Albert. Il balbutia un discours et beaucoup d'excuses qu'Amélie se chargea de comprendre et de traduire à Consuelo.
« Mon père vous demande, lui dit-elle, si vous vous sentez le courage de vous remettre à la musique après un voyage aussi pénible, et si ce ne serait pas abuser de votre bonté que de vous prier d'entendre ma voix et de juger ma méthode. »
« De tout mon cœur, répondit Consuelo en se levant avec vivacité et en allant ouvrir le clavecin.
« Vous allez voir, lui dit tout bas Amélie en arrangeant son cahier sur le pupitre. « Que ceci va mettre Albert en fuite, malgré vos beaux yeux et les miens. »
En effet, Amélie avait à peine préludé pendant quelques minutes qu'Albert se leva et sortit sur la pointe du pied comme un homme qui se flatte d'être inaperçu.
« C'est beaucoup !» dit Amélie en causant toujours à voix basse, tandis qu'elle jouait à contre-mesure. « Qu'il n'ait pas jeté les portes avec fureur, comme cela lui arrive souvent quand je chante. » « Il est tout à fait aimable, on peut même dire galant aujourd'hui. »
Le chapelain, s'imaginant masquer la sortie d'Albert, se rapprocha du clavecin et feignit d'écouter avec attention. Le reste de la famille fit à distance un demi-cercle pour attendre respectueusement le jugement que Consuelo porterait sur son élève. Amélie choisit bravement un air de « L'Achille in Siro » de Pergolèse et le chanta avec assurance d'un bout à l'autre, avec une voix fraîche et perçante, accompagnée d'un accent allemand si comique que Consuelo, n'ayant jamais rien entendu de pareil, se tint à quatre pour ne pas sourire à chaque mot. Il ne lui fallut pas écouter quatre mesures pour se convaincre que la jeune baronne n'avait aucune notion vraie, aucune intelligence de la musique. Elle avait le timbre flexible et pouvait avoir reçu de bonnes leçons. Mais son caractère était trop léger pour lui permettre d'étudier quoi que ce fût en conscience. Par la même raison, elle ne doutait pas de ses forces et sabrait avec un sang-froid germanique les traits les plus audacieux et les plus difficiles. Elle les manquait tous sans se déconcerter, et croyait couvrir ses maladresses en forçant l'intonation et en frappant l'accompagnement avec vigueur, rétablissant la mesure comme elle pouvait, en ajoutant des temps aux mesures qui suivaient celles où elle en avait supprimé, et changeant le caractère de la musique à tel point que Consuelo eût-tu peine à reconnaître ce qu'elle entendait si le cahier n'eût été devant ses yeux. Cependant, le comte Christian, qui s'y connaissait bien, mais qui supposait à sa nièce la timidité qu'il aurait eue à sa place, disait de temps en temps pour l'encourager « Bien, Amélie, belle musique, en vérité, belle musique !» La chanoinesse, qui n'y entendait pas grand-chose, cherchait avec sollicitude dans les yeux de Consuelo à pressentir son opinion. Et le baron, qui n'aimait pas d'autre musique que celle des fanfares de chasse, s'imaginant que sa fille chantait trop bien pour qu'il pût la comprendre, attendait qu'avec confiance l'expression du contentement de son juge. Le chapelain seul était charmé de ces gargouillades qu'il n'avait jamais entendues avant l'arrivée d'Amélie au château, et balançait sa grosse tête avec un sourire de béatitude. Consuelo vit bien que dire la vérité crûment serait porter la consternation dans la famille. Elle se réserva d'éclairer son élève, en particulier sur tout ce qu'elle avait à oublier avant d'apprendre quelque chose, donna des éloges à sa voix, la questionna sur ses études, approuva le choix des maîtres qu'on lui avait fait étudier, et se dispensa ainsi de déclarer qu'elle les avait étudiés à contresens. On se sépara fort satisfait d'une épreuve qui n'avait été cruelle que pour Consuelo. Elle eut besoin d'aller s'enfermer dans sa chambre avec la musique qu'elle venait d'entendre profaner, et de la lire des yeux en la chantant mentalement pour effacer de son cerveau l'impression désagréable qu'elle venait de recevoir. Chapitre 30. Lorsqu'on se rassembla de nouveau vers le soir, Consuelo, se sentant plus à l'aise avec toutes ces personnes qu'elle commençait à connaître, répondit avec moins de réserve et de brièveté aux questions que, de leur côté, elles s'enhardirent à lui adresser sur son pays, sur son art et sur ses voyages. Elle évita soigneusement, ainsi qu'elle se l'était prescrit, de parler d'elle-même, et raconta les choses au milieu desquelles elle avait vécu, sans jamais faire mention du rôle qu'elle y avait joué. C'est en vain que la curieuse Amélie s'efforça de l'amener dans la conversation à développer sa personnalité. Consuelo ne tomba pas dans ses pièges, et ne trahit pas un seul instant l'incognito qu'elle s'était promis de garder. Il serait difficile de dire précisément pourquoi ce mystère avait pour elle un charme particulier. Plusieurs raisons lui portaient. D'abord, elle avait promis, juré au Porpora, de se tenir si cachée et si effacée de toute manière qu'il fût impossible à Anzoletto de retrouver sa trace au cas où il se mettrait à la poursuivre. Précaution bien inutile, puisqu'à cette époque, Anzoletto, après quelques velléités de ce genre, rapidement étouffées, n'était plus occupé que de ses débuts et de son succès à Venise. En second lieu, Consuelo, voulant se concilier l'affection et l'estime de la famille qui donnait un asile momentané à son isolement et à sa douleur, comprenait bien qu'on l'accepterait plus volontiers simple musicienne, élève du Porpora et maîtresse de chant, que prima donna, femme de théâtre et cantatrice célèbre. Elle savait qu'une telle situation avouée lui imposerait un rôle difficile au milieu de ces gens simples et pieux. Et il est probable que, malgré les recommandations du Porpora, l'arrivée de Consuelo, la débutante, la merveille de San Samuel, les eût passablement effarouchés. Mais ces deux puissants motifs n'eussent-ils pas existé, Consuelo aurait encore éprouvé le besoin de se taire, et de ne laisser pressentir à personne l'éclat et les misères de sa destinée. Tout se tenait dans sa vie, sa puissance et sa faiblesse, sa gloire et son amour. Elle ne pouvait soulever le moindre coin du voile sans montrer une des plaies de son âme. Et ces plaies étaient trop vives, trop profondes, pour qu'aucun secours humain pût les soulager. elle n'éprouvait d'allègement, au contraire, que dans l'espèce de rempart qu'elle venait d'élever entre ses douloureux souvenirs et le calme énergique de sa nouvelle existence. Ce changement de pays, d'entourage et de nom la transportait tout à coup dans un milieu inconnu, où, en jouant un rôle différent, elle aspirait à devenir un nouvel être. Cette abjuration de toutes les vanités qui eussent consolé une autre femme fut le salut de cette âme courageuse. En renonçant à toute pitié, comme à toute gloire humaine, elle sentit une force céleste venir à son secours. « Il faut que je retrouve une partie de mon ancien bonheur, » se disait-elle, « celui que j'ai goûté longtemps et qui consistait tout entier à aimer les autres et à en être aimé. Le jour où j'ai cherché leur admiration, ils m'ont retiré leur amour, et j'ai payé trop cher les honneurs qu'ils ont mis à la place de leur bienveillance. Refaisons-nous donc obscure et petite, afin de n'avoir ni envieux, ni ingrats, ni ennemis sur la terre. La moindre marque de sympathie est douce, et le plus grand témoignage d'admiration est mêlé d'amertume. S'il est des cœurs orgueilleux et forts, à qui la louange suffit et que le triomphe console, le mien n'est pas de ce nombre, je l'ai trop cruellement éprouvé. Hélas, la gloire m'a ravi le cœur de mon amant. Que l'humilité me rende du moins quelques amis. » Ce n'était pas ainsi que l'entendait le Porpora. En éloignant Consuelo de Venise, en la soustrayant au danger et au déchirement de sa passion, il n'avait songé qu'à lui procurer quelques jours de repos avant de la rappeler sur la scène des ambitions et de la lancer de nouveau dans les orages de la vie d'artiste. Il ne connaissait pas bien son élève. Il la croyait plus femme, c'est-à-dire plus mobile qu'elle ne l'était. En songeant à elle dans ce moment-là, il ne se la représentait pas calme, affectueuse et occupée des autres, comme elle avait déjà la force de l'être. Il la croyait noyée dans les pleurs et dévorée de regrets. Mais il pensait qu'une grande réaction devait bientôt s'opérer en elle et qu'il la retrouverait guérie de son amour, ardente à reprendre l'exercice de sa force et les privilèges de son génie. Ce sentiment intérieur, si pur et si religieux que Consuelo venait de concevoir de son rôle dans la famille de Rudolfstadt, répandit, dès ce premier jour, une sainte sérénité sur ses paroles, sur ses actions et sur son visage. Qu'il eût vu naguère resplendissante d'amour et de joie au soleil de Venise, n'eût pas compris aisément comment elle pouvait être tout à coup tranquille et affectueuse au milieu d'inconnus, au fond de sombres forêts, avec son amour flétri dans le passé et ruiné dans l'avenir. C'est que la bonté trouve la force, là où l'orgueil ne rencontrerait que le désespoir. Consuelo fut belle ce soir-là, d'une beauté qui ne s'était pas encore manifestée en elle. Ce n'était plus ni l'engourdissement d'une grande nature qui s'ignore elle-même et qui attend son réveil, ni l'épanouissement d'une puissance qui prend l'essor avec surprise et ravissement. Ce n'était donc plus ni la beauté voilée et incompréhensible de la Scolare et Zingarella, ni la beauté splendide et saisissante de la cantatrice couronnée. C'était le charme pénétrant et suave de la femme pure et recueillie, qui se connaît elle-même et se gouverne par la sainteté de sa propre impulsion. Ses vieux hôtes, simples et affectueux, n'eurent pas besoin d'autre lumière que celle de leur généreux instinct pour aspirer, si je puis ainsi dire, le parfum mystérieux qu'exhalait dans leur atmosphère intellectuelle l'âme angélique de Consuelo. Ils éprouvèrent, en la regardant, un bien-être moral dont ils ne se rendirent pas bien compte, mais dont la douceur les remplit comme d'une vie nouvelle. Albert lui-même semblait jouir pour la première fois de ses facultés avec plénitude et liberté. Il était prévenant et affectueux avec tout le monde. Il l'était avec Consuelo dans la mesure convenable, et il lui parla à plusieurs reprises de manière à prouver qu'il n'abdiquait pas, ainsi qu'on l'avait cru jusqu'alors.
l'esprit élevé et le jugement lumineux que la nature lui avait donné. Le baron ne s'endormit pas, la chanoinesse ne soupira pas une seule fois. Et le comte Christian, qui avait l'habitude de s'affaisser mélancoliquement le soir dans son fauteuil, sous le poids de la vieillesse et du chagrin, resta debout, le dos à la cheminée, comme au centre de sa famille, et prenant part à l'entretien, aisé et presque enjoué, qui dura sans tomber jusqu'à 9 heures du soir.
Dieu semble avoir exaucé enfin nos ardentes prières, dit le chapelain au comte Christian et à la chanoinesse, restés les derniers au salon, après le départ du baron et des jeunes gens. Le comte Albert est entré aujourd'hui dans sa 30e année, et ce jour solennel, dont l'attente avait toujours si vivement frappé son imagination et la nôtre, s'est écoulé avec un calme et un bonheur inconcevables.
Oui, rendons grâce à Dieu, dit le vieux comte. Je ne sais si c'est un songe bienfaisant qu'il nous envoie pour nous soulager un instant, mais je me suis persuadé durant toute cette journée, et ce soir particulièrement, que mon fils était guéri pour toujours.
Mon frère, dit la chanoinesse, je vous en demande pardon, ainsi qu'à vous, monsieur le chapelain, qui avez toujours cru Albert tourmenté par l'ennemi du genre humain. Moi, je l'ai toujours cru aux prises avec deux puissances contraires qui se disputaient sa pauvre âme, car bien souvent, lorsqu'il semblait répéter les discours du mauvais ange, le ciel parlait par sa bouche un instant après. Rappelez-vous maintenant tout ce qu'il disait hier soir durant l'orage et ses dernières paroles en nous quittant. La paix du Seigneur est descendue sur cette maison. Albert sentait s'accomplir en lui un miracle de la grâce, et j'ai foi à sa guérison, comme à la promesse divine. Le chapelain était trop timoré pour accepter d'emblée une proposition si hardie. Il se tirait toujours d'embarras en disant « Rapportons-nous-en à la sagesse éternelle. Dieu lit dans les choses cachées. L'esprit doit s'abîmer en Dieu. » Et autre sentence plus consolante que nouvelle. Le comte Christian était partagé entre le désir d'accepter l'ascétisme un peu tourné au merveilleux de sa bonne sœur et le respect que lui imposait l'orthodoxie méticuleuse et prudente de son confesseur. Il crut détourner la conversation en parlant de la porporina et en louant le maintien charmant de cette jeune personne. La chanoinesse, qui l'aimait déjà, renchérit sur ses éloges, et le chapelain donna sa sanction à l'entraînement de cœur qu'ils éprouvaient pour elle. Il ne leur vint pas à l'esprit d'attribuer à la présence de Consuelo le miracle qui venait de s'accomplir dans leur intérieur. Ils en recueillirent le bienfait, sans en reconnaître la source. C'est tout ce que Consuelo eût demandé à Dieu si elle eût été consultée. Amélie avait fait des remarques un peu plus précises. Il devenait bien évident pour elle que son cousin avait, dans l'occasion, assez d'empire sur lui-même pour cacher le désordre de ses pensées aux personnes dont il se méfiait, comme à celles qu'il considérait particulièrement. Devant certains parents ou certains amis de sa famille qui lui inspiraient ou de la sympathie ou de l'antipathie, il n'avait jamais trahi par aucun fait extérieur l'excentricité de son caractère. Aussi, lorsque Consuelo lui exprima sa surprise de ce qu'elle lui avait entendu raconter la veille, Amélie, tourmentée d'un secret dépit, s'efforça de lui rendre l'effroi que ses récits avaient déjà provoqué en elle pour le comte Albert.
« Eh, ma pauvre amie, lui dit-elle, méfiez-vous de ce calme trompeur. C'est le temps d'arrêt qui sépare toujours chez lui une crise récente d'une crise prochaine. Vous l'avez vu aujourd'hui tel que je l'ai vu en arrivant ici au commencement de l'année dernière. Hélas, si vous étiez destinée par la volonté d'autrui à devenir la femme d'un pareil visionnaire, si pour vaincre votre tacite résistance, on avait tacitement comploté de vous tenir captive indéfiniment dans cet affreux château,
avec un régime continu de surprises, de terreurs et d'agitations, avec des pleurs, des exorcismes et des extravagances pour tout spectacle, en attendant une guérison à laquelle on croit toujours et qui n'arrivera jamais, vous seriez comme moi bien désenchanté des belles manières d'Albert et des douces paroles de la famille.
« Il n'est pas croyable, dit Consuelo, qu'on veuille forcer votre volonté au point de vous unir malgré vous à un homme que vous n'aimez point. Vous me paraissez être l'idole de vos parents. »
« On ne me forcera à rien. On sait bien que ce serait tenter l'impossible. Mais on oubliera qu'Albert n'est pas le seul mari qui puisse me convenir. Et Dieu sait quand on renoncera à la folle espérance de me voir reprendre pour lui l'affection que j'avais éprouvée d'abord. Et puis, mon pauvre père, qui a la passion de la chasse et qui a ici de quoi se satisfaire, se trouve fort bien dans ce maudit château et fait toujours valoir quelque prétexte pour retarder notre départ, 20 fois projeté et jamais arrêté. Ah, si vous saviez, ma chère Nina, quelques secrets pour faire périr dans une nuit tout le gibier de la contrée, vous me rendriez le plus grand service qu'âme humaine puisse me rendre. Je ne puis malheureusement que m'efforcer de vous distraire en vous faisant faire de la musique et en causant avec vous le soir lorsque vous n'aurez pas envie de dormir. Je tâcherai d'être pour vous un calmant et un somnifère.
Vous me rappelez, dit Amélie, que j'ai le reste d'une histoire à vous raconter. Je commence, afin de ne pas vous faire coucher trop tard. Quelques jours après la mystérieuse absence qu'il avait faite, toujours persuadé que cette semaine de disparition n'avait duré que 7 heures, Albert commença seulement à remarquer que l'abbé n'était plus au château, et il demanda où on l'avait envoyé.
« Sa présence auprès de vous n'étant plus nécessaire, lui répondit-on, il est retourné à ses affaires. Ne vous en étiez-vous pas encore aperçu ?»«
Je m'en apercevais, répondit Albert. Quelque chose manquait à ma souffrance, mais je ne me rendais pas compte de ce que ce pouvait être.
« Vous souffrez donc beaucoup, Albert ? » lui demanda la chanoinesse.
« Beaucoup, répondit-il du ton d'un homme à qui l'on demande s'il a bien dormi.
« Et l'abbé, vous étiez donc bien désagréable ? »
lui demanda le comte Christian.
« Beaucoup, répondit Albert du même ton.
« Mais pourquoi donc, mon fils, ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? Comment avez-vous supporté pendant si longtemps la présence d'un homme qui vous était antipathique, sans me faire part de votre déplaisir ? Doutez-vous, mon cher enfant, que je n'eusse fait cesser au plus vite votre souffrance ?
C'était un bien faible accessoire à ma douleur, répondit Albert avec une effrayante tranquillité.
Et vos bontés, dont je ne doute pas, mon père, n'eussent pu que la soulager légèrement en me donnant un autre surveillant.
Dites, un autre compagnon de voyage, mon fils. Vous vous servez d'une expression injurieuse pour ma tendresse.
C'est votre tendresse qui causait votre sollicitude, ô mon père. Vous ne pouviez pas savoir le mal que vous me faisiez en m'éloignant de vous et de cette maison, où ma place était marquée par la Providence, jusqu'à une époque où ses desseins sur moi doivent s'accomplir. Vous avez cru travailler à ma guérison et à mon repos. Moi, qui comprenais mieux que vous ce qui convient à nous deux, je savais bien que je devais vous seconder et vous obéir. J'ai connu mon devoir et je l'ai rempli.
Je sais votre vertu et votre affection pour nous, Albert, mais ne sauriez-vous expliquer plus clairement votre pensée ?
Cela est bien facile, répondit Albert, et le moment de le faire est venu.
Il parlait avec tant de calme que nous crûmes toucher au moment fortuné où l'âme d'Albert allait cesser d'être pour nous une énigme douloureuse. Nous nous serrâmes autour de lui, l'encourageant par nos regards et nos caresses à s'épancher entièrement pour la première fois de sa vie. Il parut décidé à nous accorder enfin cette confiance et il parla ainsi.
« Vous m'avez toujours pris, vous me prenez encore tous pour un malade et pour un insensé.
si je n'avais pour vous tous une vénération et une tendresse infinies, j'oserais peut-être approfondir l'abîme qui nous sépare, et je vous montrerais que vous êtes dans un monde d'erreurs et de préjugés, tandis que le ciel m'a donné accès dans une sphère de lumière et de vérité. Mais vous ne pourriez pas me comprendre sans renoncer à tout ce qui fait votre calme, votre religion et votre sécurité. Lorsque, emporté à mon insu par des accès d'enthousiasme, quelques paroles imprudentes m'échappent, je m'aperçois bientôt après que je vous ai fait un mal affreux en voulant déraciner vos chimères et secouer devant vos yeux affaiblis la flamme éclatante que je porte dans mes mains. Tous les détails, toutes les habitudes de votre vie, tous les fibres de votre cœur, tous les ressorts de votre intelligence sont tellement liés, enlacés et rivés aux joues du mensonge, à la loi des ténèbres, qu'il semble que je vous donne la mort en voulant vous donner la foi. Il y a pourtant une voix qui me crie dans la veille et dans le sommeil, dans le calme et dans l'orage, de vous éclairer et de vous convertir. Mais je suis un homme trop aimant et trop faible pour l'entreprendre. Quand je vois vos yeux pleins de larmes, vos poitrines gonflées et vos fronts abattus, quand je sens que je porte en vous la tristesse et l'épouvante, je m'enfuis, je me cache pour résister aux cris de ma conscience et à l'ordre de ma destinée. Voilà mon mal, voilà mon tourment, voilà ma croix et mon supplice. Me comprenez-vous maintenant ? Mon oncle, ma tante et le chapelain comprenaient jusqu'à un certain point qu'Albert s'était fait une morale et une religion complètement différentes des leurs. Mais, timide comme des dévots, il craignait d'aller trop avant et n'osait plus encourager sa franchise. Quant à moi, qui ne savais encore que vaguement les particularités de son enfance et de sa première jeunesse, je ne comprenais pas du tout. D'ailleurs, à cette époque, j'étais à peu près au même point que vous, Nina. Je savais fort peu ce que c'était que ce hussitisme et ce luthérianisme dont j'ai entendu si souvent parler depuis, et dont les controverses débattues entre Albert et le chapelain m'ont accablé d'un si lamentable ennui. J'attendais donc impatiemment une plus ample explication. Mais elle ne vint pas. « Je vois, dit Albert, frappé du silence qui se faisait autour de lui, que vous ne voulez pas me comprendre, de peur de me comprendre trop. Quoi qu'il en soit, donc, comme vous le voulez. Votre aveuglement a porté depuis longtemps l'arrêt dont je subis la rigueur. Éternellement malheureux, éternellement seul, éternellement étranger parmi ceux que j'aime, je n'ai de refuge et de soutien que dans la consolation qui m'a été promise. Quelle est donc cette consolation, mon fils ? Dit le comte Christian mortellement affligé. Ne peut-elle venir de nous ? Et ne pouvons-nous jamais arriver à nous entendre ? Jamais, mon père. Aimons-nous, puisque cela seul nous est permis. Le ciel m'est témoin que notre désaccord immense, irréparable, n'a jamais altéré en moi l'amour que je vous porte. Et cela ne suffit-il pas ? Dit la chanoinesse en lui prenant une main, tandis que son frère pressait l'autre main d'Albert dans les siennes. Ne peux-tu oublier tes idées étranges, tes bizarres croyances, pour vivre d'affection au milieu de nous ?
Je vis d'affection, répondit Albert. C'est un bien qui se communique et s'échange délicieusement, ou amèrement, selon que la foi religieuse est commune ou opposée. Nos cœurs communient ensemble, ô ma tante Wenceslawa, mais nos intelligences se font la guerre, et c'est une grande infortune pour nous tous. Je sais qu'elle ne cessera point avant plusieurs siècles. Voilà pourquoi j'attendrai dans celui-ci un bien qui m'est promis et qui me donnera la force d'espérer.
Quel est ce bien, Albert ? Ne peux-tu me le dire ?
Non, je ne puis le dire, parce que je l'ignore, mais il viendra. Ma mère n'a point passé une semaine sans me l'annoncer dans mon sommeil, et toutes les voix de la forêt me l'ont répété chaque fois que je les ai interrogées.
Un ange voltige souvent et me montre sa face pâle et lumineuse au-dessus de la pierre d'épouvante. À cet endroit sinistre, sous l'ombrage de ce chêne, où, lorsque les hommes, mes contemporains, m'appelaient Ziska, je fus transporté de la colère du Seigneur et devins pour la première fois l'instrument de ses vengeances. Au pied de cette roche, où, lorsque je m'appelais Fratislao, je vis rouler d'un coup de sabre la tête mutilée et défigurée de mon père Witold, redoutable expiation qui m'apprit ce que c'est que la douleur et la pitié, jour de rémunération fatale, où le sang luthérien lava le sang catholique, et qui fit de moi un homme faible et tendre, au lieu d'un homme de fanatisme et de destruction que j'avais été 100 ans auparavant.
« Bonté divine !» s'écria ma tante en se signant. « Voilà sa folie qui le reprend !»«
Ne le contrariez point, ma sœur !» dit le comte Christian en faisant un grand effort sur lui-même.
« Laissez-le s'expliquer.
Parle, mon fils. Qu'est-ce que l'ange t'a dit sur la pierre d'épouvante ?»«
Il m'a dit que ma consolation était proche, » répondit Albert avec un visage rayonnant d'enthousiasme, « et qu'elle descendrait dans mon cœur lorsque j'aurais accompli ma 29e année. »
Mon oncle laissa retomber sa tête sur son sein. Albert semblait faire allusion à sa mort en désignant l'âge où sa mère était morte, et il paraît qu'elle avait souvent prédit, durant sa maladie, que ni elle ni ses fils n'atteindraient l'âge de 30 ans. Il paraît que ma tante Wanda était aussi un peu illuminée, pour ne rien dire de plus, mais je n'ai jamais pu rien savoir de précis à cet égard. C'est un souvenir trop douloureux pour mon oncle, et personne n'ose le réveiller autour de lui. »
Le chapelain tenta d'éloigner la funeste pensée que cette prédiction faisait naître, en amenant Albert à s'expliquer sur le compte de l'abbé. C'était par là que la conversation avait commencé. Albert fit à son tour un effort pour lui répondre.
« Je vous parle de choses divines et éternelles, » reprit-il après un peu d'hésitation.
« Et vous me rappelez les courts instants qui s'envolent, les soucis puérils et éphémères dont le souvenir s'efface déjà en moi.
« Parle encore, mon fils, parle !» reprit le comte Christian. « Il faut que nous te connaissions aujourd'hui. »
« Vous ne m'avez point connu, mon père, » répondit Albert, « et vous ne me connaîtrez point dans ce que vous appelez cette vie. Mais si vous voulez savoir pourquoi j'ai voyagé, pourquoi j'ai supporté ce gardien infidèle et insouciant que vous aviez attaché à mes pas comme un chien gourmand et paresseux au bras d'un aveugle, je vous le dirai en peu de mots. Je vous avais fait assez souffrir. Il fallait vous dérober le spectacle d'un fils rebelle à vos leçons et sourd à vos remontrances. Je savais bien que je ne guérirais pas de ce que vous appeliez mon délire, mais il fallait vous laisser le repos et l'espérance. J'ai consenti à m'éloigner. Vous aviez exigé de moi la promesse que je ne me séparerais point, sans votre consentement, de ce guide que vous m'aviez donné, et que je me laisserais conduire par lui à travers le monde. J'ai voulu tenir ma promesse. J'ai voulu aussi qu'il pût entretenir votre espérance et votre sécurité, en vous rendant compte de ma douceur et de ma patience. J'ai été doux et patient. Je lui ai fermé mon cœur et mes oreilles. Il a eu l'esprit de ne pas songer seulement à se les faire ouvrir. Il m'a promené, habillé et nourri comme un enfant. J'ai renoncé à vivre comme je l'entendais. Je me suis habitué à voir le malheur, l'injustice et la démence régner sur la terre. J'ai vu les hommes et leurs institutions. L'indignation a fait place dans mon cœur à la pitié, en reconnaissant que l'infortune des opprimés était moindre que celle des oppresseurs. Dans mon enfance, je n'aimais que les victimes. Je me suis pris de charité pour les bourreaux, pénitents déplorables qui portent dans cette génération la peine des crimes qu'ils ont commis dans des existences antérieures, et que Dieu condamne à être méchants, supplice 1000 fois plus cruel que celui d'être leur proie innocente. Voilà pourquoi je ne fais plus l'aumône que pour me soulager personnellement du poids de la richesse,
sans vous tourmenter de mes prédications, connaissant aujourd'hui que le temps n'est pas venu d'être heureux, puisque le temps d'être bon est loin encore, pour parler le langage des hommes. Et maintenant que tu es délivré de ce surveillant, comme tu l'appelles, maintenant que tu peux vivre tranquille, sans avoir sous les yeux le spectacle de misère que tu éteins une à une autour de toi, sans que personne contrarie ton généreux entraînement, ne peux-tu faire un effort sur toi-même pour chasser tes agitations intérieures ?
Ne m'interrogez plus, mes chers parents, répondit Albert. Je ne dirai plus rien aujourd'hui.
Il tint parole, et au-delà, car il ne desserra plus les dents de toute une semaine.